Belkin, Nomad, Anker, autant de marques que vous connaissez sans doute pour leurs différents accessoires pensés pour l'écosystème Apple. Acheter un iPhone implique souvent de mettre la main à la poche pour une coque, tandis que nos lecteurs sont nombreux à avoir un tiroir rempli de bracelets d'Apple Watch. Le panorama des accessoiristes est vaste et n'est pas exclusivement constitué de grosses boîtes américaines ou chinoises. On en trouve également en France, de taille un peu plus modeste et qui doivent trouver un moyen de se démarquer. Comment gérer sa barque dans cet univers concurrentiel et anticiper les nouveautés d'Apple à l'aveuglette? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Amaury Hubeau, cofondateur du spécialiste des bracelets d'Apple Watch BandBand. Salut Amaury.
Salut Félix, salut Mickaël, bonjour à tous.
Et je suis également avec Mickaël Massa, directeur de la marque d'accessoires pour smartphone Nerev, basée à Saint-Tropez. Salut Mickaël.
Bonjour Félix, bonjour Amaury, enchanté d'être avec vous.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà vos entreprises? Amaury, on commence avec toi.
Allez, c'est parti. Pour nous, c'est assez simple. Comme tu le mentionnais, nous, on est spécialiste des bracelets pour Apple Watch. On a deux marques. Alors, tu citais BandBand. On en a une deuxième qui s'appelle Eternal. Tu vas voir que les deux ont une histoire un petit peu liée. BandBand, si je dois résumer, c'est un peu le décathlon du bracelet pour Apple Watch. Nous, notre ambition depuis le début, c'est de proposer la meilleure qualité au meilleur prix. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver des bracelets de nos marques. C'est pour ça que une comparaison avec Decathlon, mais on trouve aussi des bracelets de grandes marques qu'on aime beaucoup, comme Nomad, UAG. Pour les protections, on bosse avec Panzer Glass, qui a un nom qui évoque ça respire la solidité. Et on bosse aussi avec 12 South et Zens pour la recharge. Et donc, je mentionnais Eternal, c'est notre marque de bracelets français en cuir. Donc, il y a vraiment tout de cuir, hein, du cuir de vachette, de taureau, de chèvre, du cuir marin que vous avez pu tester. Et notre but pour cette marque, c'est de faire en sorte que votre Apple Watch elle puisse être élégante sans effort. Hein, l'Apple Watch, ça ne sert pas juste à faire du sport, on peut la porter tout le temps, donc tant qu'à faire, autant avoir le bracelet qui va bien.
Ok. Et Mickaël, tu peux nous présenter un peu nos rêves?
Alors, nos rêves, j'ai fondé la société il y a 20 ans, en février dernier. À ce jour, la société a été créée juste avant le lancement de l'iPhone, du premier iPhone en 2007. Ouais. Mais juste après les premiers iPods, parce qu'on sentait que le marché allait avoir besoin d'une marque un peu fashion, un peu mode, haut de gamme pour protéger nos appareils mobiles. Et à l'époque, je le cite souvent, mais à l'époque, tout le monde voulait le plus petit téléphone au monde et on parlait déjà de GPRS, de données sur nos mobiles. Et je me suis dit tout simplement que les écrans allaient s'agrandir, qu'on allait pouvoir voir la télé, regarder des vidéos et que naturellement, il allait falloir protéger les écrans. Oui. Et donc après, étant natif de Saint-Tropez, j'ai décidé de me dire qu'il fallait lancer une marque un peu premium. J'ai souvent tendance à dire qu'on veut être un petit peu toute proportion gardée, hein, le Hermès des sacs, le Ray-Ban des lunettes ou le Mont Blanc des stylos dans notre domaine. Et voilà, donc ça fait 20 ans. À ce jour, on a 7 employés au siège social à Saint-Tropez. Oui. On a 2 productions à l'étranger, au Vietnam, et on a une dizaine d'artisans collaborateurs en France pour tout ce qui est gamme premium. Et après 20 ans, on a eu plus de 450 000 clients sur le site et on vend tous les jours à peu près dans le monde entier.
Okay.
Voilà. Nous, on veut être la marque de référence pour tout ce qui est protection de luxe, mais pas que, on le verra sûrement par la suite. On a aussi une déclinaison en petite maroquinerie plus généraliste, plus classique, à la fois B2C et B2B.
Ok, ouais. Amaury, tu l'as pas précisé, mais vous êtes combien à bosser chez BandBand?
Je l'avais gardé pour la fin. Donc chez BandBand, BandBand Eternal, on est une petite dizaine. Ça varie en fait selon les saisons parce qu'on a des saisonnalités assez marquées, comme tout le marché de l'accessoire et les marchés Apple. On a des moments qui sont plus prononcés que d'autres en termes d'activité, notamment évidemment toute la période novembre, décembre, janvier, qui est pour nous le pic de l'année. Et nous, de notre côté, on a une histoire qui est un petit peu sinueuse. D'ailleurs, pour l'anecdote, nous, on a lancé Band, qui était notre première marque, le même jour que l'Apple Watch, c'est-à-dire il y a pile 9 ans, hein, aujourd'hui on enregistre le 24 avril. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'Apple avait annoncé 2 tailles de bracelets, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du feuilleton, on savait pas combien, etc. Et donc nous, on avait monté notre concept, d'où le site d'ailleurs, d'où le nom du site BandBand, qui était comme un site d'échange, bracelet contre bracelet. Après, Apple a très vite démenti en annonçant que ce serait finalement un bracelet disponible en 2 tailles. Hein. C'était pas fou. Ouais. Et donc finalement, on a pivoté vers du e-commerce traditionnel. Et ça nous a plutôt bien réussi.
Ok, ouais. J'imagine que le marché de la vente d'accessoires pour produits Apple, c'est ultra concurrentiel. Est-ce que vous avez d'autres activités que la vente aux particuliers, Michael ?
Alors, bah, nous, notre cœur de métier, naturellement, c'est la protection de luxe pour appareils mobiles, que ce soit smartphone, tablette, liseuse, ordinateur portable. Mais on se focalise pas uniquement sur Apple. Au contraire, on a une vaste gamme de housses pour Samsung, pour Sony, pour OnePlus, Xiaomi, Honor, Fairphone. Mais depuis très, très longtemps, ça va faire peut-être déjà plus de 15 ans sur nos 20 ans d'existence, qu'on s'est diversifié naturellement. C'est-à-dire que notre savoir-faire, il a été, enfin, il y a un vrai bouche-oreille qui se fait. C'est simple, on n'a pas de commerciaux en interne. D'ailleurs, c'est un des leviers de croissance qu'on est en train de mettre en place actuellement. Et on a un savoir-faire assez exceptionnel dans tout ce qui est accessoires de petite maroquinerie personnalisable, notamment en B2C. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est portefeuille, porte-carte. Voilà. Bon, ça, c'est une demande qui va s'ajouter souvent sur les ventes en ligne. Mais surtout en B2B, où là, c'est assez incroyable, même avec le recul, des fois, on prend le temps de regarder notre portefeuille client. On a eu plus d'une centaine de sociétés qui travaillent avec nous, comme Ferrari pour les étuis cartes grises, Porsche, Nespresso, où on fait des étuis bandoulières pour ceux qui prennent des commandes dans les boutiques Nespresso. On vient de signer pour Just Over the Top, pour Doctolib récemment pour habiller leur lecteur Sésame. Okay. Mais surtout, notre plus gros cœur de métier actuellement, enfin en B2B je parle, c'est tout l'équipement des hôtels 4, 5 et 5 étoiles et palaces pour tous leurs goodies et accessoires comme les porte-menus, les porte-additions, les parapheurs, les livres d'or. Et en fait, c'est un énorme marché où il y a très peu d'acteurs. Et justement, actuellement, on est en train de travailler là-dessus et c'est presque 30% de notre chiffre d'affaires actuellement.
D'accord, ok. Et vous, Amaury, ouais?
Bah déjà, bravo Mickaël, parce que je connaissais pas cette partie de votre activité.
Merci.
C'est assez intéressant de voir parfois. Bah j'imagine c'est peut-être un peu plus discret parce que c'est pas disponible en retail, mais c'est ouais, belle diversification.
Ouais.
Nous, de notre côté, on a en fait le marché du bracelet et du bracelet pour Apple Watch, c'est un marché qui est assez spécial parce qu'il y a beaucoup de particularités. On avait réfléchi à se diversifier sur d'autres types d'accessoires, type coque d'iPhone, coque pour AirPods, etc. Ouais. Et en fait, la valeur derrière n'est pas du tout la même. Et en plus, hein, le monde du bracelet, il y a beaucoup, beaucoup de choses à creuser. Déjà, c'est des bracelets qui sont, enfin, c'est des produits qui sont de petite taille. Il y a beaucoup de références, parce que les demandes, du coup, sont très variées en termes de taille, de couleur, etc. C'est des outillages aussi qui sont à part, donc il y a peu de synergie entre un fabricant de bracelets de montre et d'autres types de maroquinerie. Alors souvent, c'est des acteurs qui sont proches parce qu'on reste autour du cuir, mais le savoir-faire du bracelet, c'est quelque chose de très particulier, surtout qu'il y a une grosse partie qui est faite 100% à la main. Du coup, nous, on sent que le marché, à la fois, il est ultra concurrentiel sans l'être. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, on a rencontré une concurrence qui était assez malsaine. Ça s'est heureusement assaini. Ça, je fais référence à tout ce qui était dropshipping. On avait pas mal de concurrents qui avaient des noms assez similaires aux nôtres. On récupérait leurs clients qui étaient aisés, qui nous confondaient et qui venaient se plaindre chez nous. Après, ils sont restés d'ailleurs. Aujourd'hui, on a encore la concurrence de tout ce qui est marketplace. Mais en fait, quand on regarde notre positionnement sur vraiment que le bracelet pour Apple Watch et sur nos gammes différentes en allant jusqu'au cuir, en fait, notre positionnement il est assez unique, donc ça nous protège parce que c'est pas si facile que ça de rentrer sur ce marché-là.
Je me demandais pour Bandband, d'ailleurs, vous avez qui comme autre acteur sur le secteur ?
Beaucoup de dropshipping et en fait, il y en avait beaucoup avant, maintenant il y en a beaucoup moins. Nos concurrents principaux, c'est les marketplaces. Je ne les citerai pas parce que tout le monde les connaît, elles ont plein de pubs, mais voilà, nos concurrents aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup les marketplaces. Ce qu'on avait aussi beaucoup travaillé, c'est tout ce qui est le physique, on avait imaginé, nous, à un moment, lancer nos propres magasins, mais un magasin autour du bracelet pour Apple Watch, on tourne un petit peu en rond. On reste quand même accessoire d'accessoire, c'est-à-dire que l'Apple Watch est déjà un accessoire de l'iPhone, le bracelet est l'accessoire de l'Apple Watch. Donc, faire un magasin autour de ça, c'était pas pertinent, donc on s'est assez vite rapproché en fait de tout l'univers des revendeurs Apple indépendants, ce qu'on dit souvent sous le terme de Apple Premium Reseller, même s'il y a différents statuts. Honnêtement, ce sont des réseaux avec lesquels on adore travailler, parce que les équipes commerciales sont vraiment passionnées. Il y a une vraie culture de l'accessoire de qualité, il y a un très bon service et dans l'ensemble, on se retrouve à parler le même langage. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'arriver dans des magasins où il y avait certains vendeurs qui connaissaient presque mieux mon catalogue que moi. Heureusement, Je connais bien mes produits, mais qui me disait alors est-ce que tu as telle nouveauté, pour le citer par exemple le bracelet Rally, qui à l'époque était une nouveauté, et je m'attendais pas dès 9h le matin à avoir des questions directement là-dessus. Donc j'étais toujours eu des très bonnes surprises en échangeant avec leurs équipes. Et donc bah, aujourd'hui, on s'est diversifié en termes de distribution. Avant, on n'était que sur le web, maintenant on est également dans les meilleurs Apple Premium Resellers, qui doivent faire à peu près une cinquantaine de points de vente. En France, en DOM-TOM, et petit spoiler, il y a un nouveau pays européen avec lequel on est en train de signer, qui sera annoncé prochainement.
Vous cherchez à diffuser, à distribuer vos produits dans toute l'Europe, dans le monde, ou vous focalisez que sur les pays francophones là?
Non, pas spécialement francophone, c'est un pays qui est pas francophone, justement,
Ah, c'est un
européen,
autre.
ouais, mais non francophone. Non, là-dessus, bah, l'avantage qu'on a en Europe, c'est que les tailles sont assez similaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas des variations de gabarit beaucoup plus grands, beaucoup plus petits, notamment au niveau du poignet. Donc ça, là-dessus, le marché est assez homogène. C'est une force pour nous.
Non, je voulais savoir si vous avez pas ambition d'ouvrir le site à l'international ou juste vous restez sur les pays ou petit à petit vous allez essayer de grappiller des pays autres qu'en Europe, hein, je parle aux États-Unis.
Ouais. Aujourd'hui, le site, il est localisé en France,
Ouais, c'est pour
mais
ça.
il est traduit en anglais, il est traduit en allemand. Et bah justement, voilà, l'Allemagne, on travaille déjà un petit peu avec eux sur la distribution Amazon. Pas l'occasion de reparler, de détailler ça après. Et voilà, on a ambition de travailler avec le reste de l'Europe et les États-Unis.
Ouais,
Donc,
l'Allemagne, c'est notre deuxième meilleur pays aussi.
ça m'étonne pas.
Hein.
Est-ce que Noré, vous êtes où? Toute l'Europe ou vous faites aussi États-Unis, Asie, tout ça?
Nous, depuis toujours, on a toujours livré dans le monde entier. C'est-à-dire que tous les jours, on a une centaine de commandes sur le site. Et c'est vraiment, je crois que sur une année, il n'y a pas un pays où on ne vend pas. C'est assez impressionnant. Notamment parce qu'on a les frais de port offerts sur le site. Voilà, on a à la fois les frais de port offerts en postal et puis on a les frais de port payants en UPS. Mais de toujours, dès le départ, quand on a ouvert le site, déjà le site était en 3 langues. Maintenant, on est en 9 langues. C'est-à-dire qu'on a aussi le site traduit en mandarin, en coréen et en japonais. Et le Japon, c'est pareil, ça fait partie du top 10 des pays où on vend. Voilà. Maintenant, on vend dans le monde entier tous les jours.
Une bonne partie de vos accessoires, elle concerne directement les produits Apple. Comment ça se passe les relations avec la marque? Vous êtes en lien avec Apple directement pour la confection des produits ou vous devez vous débrouiller un peu par vous-même pour deviner? Michael?
Bonne question. Bonne question. Ça a été vraiment cornélien au lancement de la marque et de se lancer dans ce domaine-là, parce que j'étais chef de produit avant pour la Fnac. Et déjà, les relations avec Apple étaient compliquées. Donc, nous, on a travaillé avec eux entre 2007 et 2009 de mémoire. On vendait des étuis iPod à bandoulière. Honnêtement, on a travaillé 2 ans et c'était pour nous un gouffre financier. Les marges étaient excessives. Je vais pas les dire, mais c'était dingue. Il y avait du dépôt-vente, il y avait de la consignation, il y avait des frais de port à l'aller et au retour s'il y avait des invendus. Honnêtement, voilà, on payait quasiment de la visibilité et encore, je pense qu'on était largement perdant. Les ventes indirectes étaient pas si bonnes que ça, donc du coup on a arrêté et on est parti après, on est parti travailler avec la Fnac là pendant une dizaine d'années où les marges étaient moins importantes. Bon, avec le temps, ça s'est arrêté aussi parce que ils en demandaient beaucoup trop et donc on n'a aucun lien avec Apple. On se débrouille, bon, on le verra certainement plus tard, mais avec des partenaires historiques qui arrivent à nous avoir des informations en amont et qui nous permettent de développer les produits un peu plus tôt, quoi.
D'accord. Et vous, Amaury, ouais.
Merci pour votre tour d'expérience, ça confirme pas mal de choses que j'avais déjà entendues par ailleurs. Non, nous, très honnêtement, on n'a pas de contact avec les équipes Apple. On croise des équipes retail quand il y a l'inauguration d'un nouveau magasin type Apple Premium Partner, comme il y en a pas mal en ce moment. Mais ça s'arrête là. En fait, pour la petite histoire, on avait regardé au tout début pour être dans leur programme qui s'appelait Made for Apple Watch, un peu comme Made for iPhone. Mais en fait, ce programme était assez inadapté. On pouvait de mémoire acheter des adaptateurs uniquement en acier inox, alors que bah, l'Apple Watch est disponible grosso modo dans une petite dizaine de couleurs suivant les années. Et c'était 5 fois plus cher que les prix qu'on avait à côté. Donc bah, ce programme-là, d'ailleurs, je crois qu'il est resté confidentiel et je ne crois pas que ça existe encore. Et nous, de notre côté, on a préféré aller chercher nous-mêmes des fournisseurs qui produisaient les bonnes couleurs. Là, je mentionne les adaptateurs, mais c'est pareil pour la fabrication des bracelets, hein. Il y a des spécialistes pour chaque matériau, on les sollicite pour leurs compétences. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est cuir, c'est des compétences qui sont parfois plus que centenaires. Voilà, donc on allait voir plutôt, on allait construire, nous, nos propres projets de développement. Et Apple, voilà, nous, on aimerait bien avoir les spécifications de l'adaptateur s'ils ont prévu de les changer cette année. des nouveautés immédiatement en cas de changement. Non, mais on a surtout appris à s'adapter très vite et à faire de notre côté parce que, ouais, comme le décrit Michael, de ce qu'on en voit, les conditions d'Apple sont très très compliquées et on ne serait pas capable de suivre.
Ouais. Ouais, je crois qu'on est tous dans le même cas.
Et donc, ouais, Michael, comment vous faites chez Noref pour être dans les starting blocks au lancement d'un nouvel iPhone? Parce qu'on a souvent de petits changements de design d'une année à l'autre, mais Apple, ils diffusent pas les plans en amont, quoi. Donc,
non, c'est quasiment les seuls. Pour tous les autres, il y a aussi des projets, notamment chez Sony, mais qui sont très très chers. Ouais. On y a adhéré au début, puis on a arrêté parce que ça, le jeu, on valait pas la chandelle. Mais par contre, bah, comme on est pionnier sur ce marché, on a la chance d'avoir de nombreux sourceurs en Asie. Là, c'est directement en Chine. On a souvent les factices 2-3 mois avant. Okay. Alors c'est souvent des OEM, hein, mais dans 95% des cas, ils sont parfaits. Ouais. Je crois que c'est arrivé deux fois dans toute l'histoire où, alors c'est jamais des problèmes de taille ou de gabarit, c'est souvent dû à la caméra qui est souvent plus épaisse ou plus large que prévu par rapport au factice. Donc là, ça demande juste une petite modification. Et nous, depuis 2 ans, on a une chance énorme, hein, c'est que c'est notre production. On a une autre production sous-traitante, comme je vous ai dit, au Vietnam. Mais là, on a une production historique qu'on est en train d'englober, qui est une des plus luxueuses au monde, qui travaille pour les plus grandes marques de luxe. Mais bon, ça, je peux pas y citer pour des raisons de confidentialité. Et depuis 2 ans, donc, on gère nos propres moules en plastique à injection, ce qui fait qu'en 2-3 jours, on ajuste le moule. Et quand avant, ça prenait 2 à 3 semaines par un fournisseur, souvent c'était chinois ou vietnamien. En 2-3 jours, on arrive à être réactif. Pour les inserts, pour parler des montres sur le marché plutôt d'Amaury, là pour le coup, on a des fournisseurs pareils en Chine qui sont hyper réactifs, qui sont très proches des productions d'Apple. Et bon, là, on les achète directement chez eux. C'est la seule pièce qui est pas faite à l'étranger, enfin qui est faite à l'étranger, qui est pas faite en France pour nous. Et ça, on n'a pas le choix parce que les coûts d'entrée, les coûts de développement, les volumes demandés seraient très trop importants pour l'internaliser, quoi.
Ok, et du coup, vous avez déjà eu de mauvaises surprises? Tu disais que, ouais, il peut y avoir des changements de dernière minute.
Bah, deux fois, on a eu, notamment même sur l'iPhone 14 de mémoire, la caméra était vraiment beaucoup plus large par rapport au coque qu'on avait développé initialement. Et du coup, il a fallu agrandir. Nous, il faut savoir que toutes nos coques intérieures, elles sont 100% habillées, sont 100% gainées en cuir, en simili-cuir ou en vegan, suivant la gamme que le client choisit à la demande. Et donc, elles sont vraiment ajustées au millimètre près. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le moindre changement, on est obligé de tout refaire, le patronage, les emporte-pièces. Voilà. Bon, ça arrive, hein, mais encore une fois, là, depuis 2 ans, c'est presque un faux souci. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas comme Belkin ou les grandes marques qui, eux, ont le vrai appareil, les vraies informations certainement 2-3 mois à l'avance, avec des produits vraiment où ils peuvent s'appuyer dessus, des factices qui peuvent s'appuyer dessus. Nous, il y a toujours ce petit stress de se dire qu'il y a 2-3 modifs à faire. Après, voilà, nous, comme on vend pas en retail et qu'on n'a pas besoin d'être, on n'a pas de la grande distribution, tout c'est sur le site ou via des revendeurs. Nos clients savent que la qualité demande du temps. On n'est pas si pressé. C'est sûr que c'est un manque à gagner, hein, si on était un mois sur l'avance et qu'on aurait un réseau de distribution comme on avait historiquement. En avant, on avait 1200 vendeurs dans le monde entier. Ils nous pressaient tous les jours pour avoir les étuis en même temps que le lancement des appareils. Bon, maintenant, nous, notre marché a changé. Notre clientèle est différente. Elle veut de la qualité, donc elle sait que ça prend du temps. Et comme en plus de ça, sur 70% de nos clients veulent des produits vraiment personnalisés, c'est-à-dire qu'ils veulent une option, que ça soit la bandoulière, que ça soit des emplacements carte bleue, que ça soit même un logo, une gravure. Et bah, il faut un peu de temps. Donc on arrive à être prêt. Déjà, on prend des précommandes le jour du lancement parce qu'on sait qu'on pourra fabriquer la semaine d'après. Et après, il faut compter 2 semaines quand nos produits sont pas en stock. Il faut compter 2 semaines pour un produit personnalisé. Donc c'est un faux problème pour nous.
D'accord, ouais. Et vous, Amaury, j'imagine que c'est plus simple avec l'Apple Watch, parce que bon, il n'y a pas eu de changement de système d'attache depuis le début. Comment ça s'est passé pour l'arrivée de la Ultra, qui apportait quand même un peu de changement? Il y a eu des modifications de dernière minute?
Jusqu'ici, c'est simple, mais on en reparle en mi-septembre, hein, ça marche?
Oui.
Là-dessus, on suit ça d'assez près. Ouais, comme tu dis, jusqu'ici, on a eu de la chance, parce que le système d'attache, il a peu évolué. Il y a des petites modifications, mais qui sont assez minimes sur les extrémités. Donc, effectivement, même série, passage à la série 4, il y avait déjà eu des petits changements. Et pour la partie ultra, en fait, à part certains modèles de chez Nomad qu'on distribue et qu'on a très vite identifiés, qui eux pouvaient bloquer, mais c'était, il y avait 3 ou 4 grand max, ça a surtout été cosmétique. En fait, la forme de l'ultra, elle est légèrement différente. La teinte du titane, il n'y en avait pas jusqu'ici. Et en fait, voilà, le temps de la reproduire, comme disait Mickaël, on doit avoir des fournisseurs qui sont assez proches pour tout ce qui est adaptateur. Voilà, ils se sont adaptés très vite. C'est une teinte différente. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, les adaptateurs précédents fonctionnaient parfaitement. Moi-même, d'ailleurs, j'ai encore des bracelets. Enfin, j'ai la chance d'avoir une ultra. J'ai encore des bracelets avec mes adaptateurs en acier inox. Ça fonctionne très bien.
Ouais.
D'ailleurs, c'est assez discret. Parfois, je m'embête pas à les changer. Les clients les plus pressés qu'on avait, ils avaient commandé des bracelets avec adaptateur Alu Sport gris clair, hein, le modèle sport.
Ouais.
Et puis, en fait, 3 semaines plus tard, on avait reçu les adaptateurs ultra qui allaient bien avec la forme et la couleur parfaite. Donc voilà, ça c'est l'affaire de 2-3 semaines, suivant la période, le temps de production. Ça va assez vite.
Ok, ouais. Et pour une éventuelle refonte de la série 10, ouais, vous êtes déjà prêt? Vous avez un plan?
Alors, juste avant de répondre à ça, bah, honnêtement, moi, je vois mal Apple changer son système en rendant vraiment l'ancien incompatible. Déjà, quand on voit leur discours sur l'Apple Watch neutre en carbone, je me dis, il y aurait un truc un peu pas cohérent de rendre des collections, bah, parfois des personnes qui ont pas loin de 10 ans de bracelet, de rendre ça obsolète. Je trouverais ça un peu étrange.
Ouais.
Puis après, quand on regarde l'Apple Watch, il y a quand même de la marge avant que le bracelet soit vraiment le point qui fasse obstacle dans leur course à la finesse. Après, si ça se produit, et on a quand même du mal à imaginer aussi qu'Apple abandonne le système de bracelet interchangeable, c'est un peu comme si Apple empêchait les coques d'iPhone, hein, en quelque sorte, parce que c'est l'accessoire principal de l'Apple Watch. Après, quand on a dit ça, on a quand même préparé plusieurs plans, parce que on est prudent. Et si Apple change les dimensions des bracelets qu'on peut monter sur les adaptateurs, on sera prêt. Hein. On est en train de travailler, parce que nous, les bracelets, ils font soit 22 mm de large, soit 24 mm au niveau de la tâche. Donc, on est en train de travailler avec nos fournisseurs pour faire toutes les tailles de 18, 19, parce qu'on peut même faire des tailles impaires, hein, c'est historiquement dans l'horlogerie, ça a existé. Donc voilà, on fait tous les plans 18, 19 jusqu'à 24, 25, etc. On prépare tous nos approvisionnements et on se tient prêt pour le jour où Apple annonce clairement les nouveautés. Et en fonction de ce qu'ils annoncent, on lance les productions qui correspondent.
Okay.
Et puis, on espère effectivement qu'il y aura toujours un système d'adaptateur, mais ça, ce serait très, très improbable selon nous qu'il s'en débarrasse. Faut bien fixer le bracelet.
Oui, oui.
Ouais, il parle d'un système de fixation magnétique. C'est juste ça qui m'inquiète un peu. C'est ça qui m'inquiète. C'est une édition qui devrait être plus fine. Bon, après, il y a des changements au niveau de fonctionnalité, mais ça nous touche pas. Moi, je suis un peu plus inquiet. Ouais, je pense que des fois, ils veulent renouveler quand ça a un certain temps que c'est les mêmes inserts. En effet, je pense qu'ils vont peut-être vouloir renouveler, enfin pousser les gens à renouveler leur bracelet et leur montre naturellement. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, c'est un faux problème aussi. Hein. En effet, comme dit Armory, on doit avoir les mêmes fournisseurs. En tout cas pour les inserts, hein, il y a 4-5 grands acteurs sur le marché. Ils sont hyper réactifs. Je pense que 2-3 mois avant, au mois de juin, on aura déjà des inserts. On le saura déjà. Et donc nous, après c'est simple, hein, c'est des emporte-pièces historiques qui font plusieurs tailles. Il suffit juste de l'adapter à l'insert. Le travail, le plus gros du travail chez nous, c'est plus la couture, les finitions, les peintures sur tranche pour offrir puis bien sûr le cuir, mais ça c'est les sourcings historiques qu'on a et juste adapter en fait la tâche, enfin l'insert à notre emporte-pièce quoi. Donc c'est l'histoire d'une demi-journée. Hein. Donc pour ça voilà, je m'inquiète pas trop. Après ça a toujours du bon. Hein. Nous, je veux pas vous cacher, c'est un petit peu comme Apple, je pense que plus ils changent de système, alors de fixation c'est autre chose, mais en tout cas plus ils changent de forme de diphone, et mieux c'est pour nous quand il y a un changement de taille ou qu'il y a besoin d'un nouveau une nouvelle coque ou une nouvelle housse ou un nouvel étui. Naturellement ça renouvelle le marché. Hein. Ça arrive plein de fois qu'ils changent pas l'iPhone SE, la taille, naturellement les ventes sont moins bonnes que quand ils changent un appareil quoi. Donc on suivra ce qu'ils font, mais on s'adaptera.
Exactement, ouais, le changement peut être un peu prise de tête, mais à la fin effectivement
c'est plus rentable
par une activité qui est intéressante aussi, donc
on est d'accord.
De ce que j'ai lu sur vos sites, vos produits sont créés en France mais pas forcément fabriqués dans l'Hexagone. Comment ça fonctionne niveau stock? Vous produisez à la demande ou vous avez des entrepôts déjà remplis de bracelets, de coques, tout ça? Michael?
Alors, nous, tous nos bracelets sont fabriqués dans le Limousin. Ils sont labellisés EPV, Entreprise du patrimoine vivant. C'est un label qui distingue les entreprises françaises artisanales qui ont au savoir-faire assez rare. C'est pour ça que le niveau de finition, il est vraiment très, très, très haut de gamme et les prix suivent naturellement. Nos marges sont très limitées. Nous, c'est vraiment pas notre cœur de métier, mais la presse en parle beaucoup et qu'on a beaucoup de satisfaction client sur ces produits. On a un stock tampon de toutes les couleurs qui est limité parce que c'est un vrai coût de production. Mais après, naturellement, on fabrique comme pour tous nos autres produits sur le site. Hein, on a plus de 5000 modèles de coques, de housses, d'accessoires de petite maroquinerie. Et comme on a plus de 180 couleurs, on a 14 gammes, on a une dizaine d'options exclusives qu'on peut ajouter à nos produits, tout est fabriqué après sous 2 semaines. Donc en fait, on a un petit stock tampon et on fabrique à la demande, notamment de plus en plus à la demande, hein, parce qu'on est connu pour la personnalisation. Et déjà, ça nous évite des surstocks. Et comme les clients veulent des options personnelles, enfin des options de personnalisation, naturellement, on fabrique sur demande.
Ok, ouais. Et vous, Amaury ?
Alors nous, ça dépend, pour reprendre la distinction entre nos deux marques, pour toutes les références, on va dire qu'ils sont dans des matériaux type fluoroélastomère, nylon, tous les bracelets métalliques, on a des entrepôts qui sont remplis, hein, qui sont prêts à être expédiés. Ça, c'est des références sur lesquelles on fait de la production de série et y a pas besoin, enfin, on n'offre pas de personnalisation ni de sur-mesure. Par contre, pour tout ce qui est cuir, comme c'est, voilà, nous, c'est des bracelets français fabriqués en France. On n'est pas dans le Limousin, mais on est plutôt entre la Haute-Savoie et le Doubs, hein, de chaque côté de la frontière suisse, parce qu'historiquement, la France est le sous-traitant de l'industrie horlogère suisse. Donc ça, pour nous, c'est pareil, on en est fiers de cette fabrication en France. Et quand on lance une collection, au début, il y a un petit côté, il y a quelques semaines, quelques mois, pendant lesquels on est un peu à vue. C'est-à-dire qu'on fait une collection avec des petites séries, on communique dessus, et puis après, on regarde si ça prend, et si le succès est au rendez-vous, on augmente la cadence. Et parfois, on peut même avoir des surprises, on s'est complètement dépassé. Pour le citer à nouveau, le modèle Rallye que certains de vos lecteurs connaissent, il était prévu en fait pour être une série limitée, parce qu'il était hyper original, avec des perforations, une boucle déployante, etc. Et en fait, on s'est fait complètement dépasser par la demande. Il a cartonné et on a couru après pendant plus de 2 ans. Et d'ailleurs, c'est très récent, hein, ça fait que quelques mois qu'on arrive vraiment à satisfaire la demande. Plein de petits contretemps du style trouver les bonnes teintes de cuir, parce que du cuir tannage végétal, c'est pas toujours la même teinte, donc c'est parfois des petits casse-têtes de production. Et ça peut, ce qui fait qu'on peut aussi avoir des ruptures temporaires, hein, sur certaines références qui mettent du temps à être fabriquées parce qu'il y a une fabrication à la main, comme je le disais, il y a des cuirs qui sont pas toujours disponibles dans la bonne teinte, etc. Nous, on travaille aussi à chaque fois qu'on a des ruptures de stock, potentiellement, c'est des ventes qu'on perd. Donc, on travaille aussi avec nos fabricants dans des logiques de stock tampon, comme le citait Michael. Je vois qu'on a un peu les mêmes habitudes. Justement, ça nous permet, nous, d'avoir des prix qui sont plus intéressants à la production sans se faire déborder de stock, parce que parfois, la demande, elle est plus forte à certaines saisons qu'à d'autres.
Ouais. Est-ce que le 100% made in France, ça serait jouable ? Vous avez des usines en France, du coup ?
Alors nous, pour nos rêves, oui, nous, c'est du 100% made in France, sauf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les inserts, les adaptateurs, ça, on est obligé de les acheter en Chine. Ça serait trop compliqué, encore une fois, en termes de coûts, de moules, de développement et de quantité. Mais tout est en France. Nos cuirs viennent de France, alors ça aussi d'Espagne et d'Italie. C'est des cuirs LWG, c'est-à-dire le Leverwall Group, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment labellisés tannage végétal, respect de l'environnement, tout ce qui est parfait pour l'écologie. On a nos artisans dans le Limousin, justement, près de Limoges, et tout est fait main. Donc, on peut le faire. Après, voilà, il faut savoir que nous, ces produits, c'est des produits qui permettent de tirer la marque vers le haut, mais au niveau des marges, c'est très, très limité. Je pense qu'on a vraiment rien à envier aux finitions d'Hermès. Bon, d'ailleurs, notre production travaille pour les ceintures Weston. C'est aussi eux qui font nos ceintures. Donc, on en a le très haut de gamme, sauf que, voilà, on peut pas se permettre de faire les prix d'Hermès et donc les mêmes marges. Mais après, on a un projet en cours, hein, et on s'en cache pas depuis 2-3 ans. Le Covid nous a mis un petit coup d'arrêt, c'est de faire justement une production à Saint-Tropez pour toutes les gammes premium made in France. Et en vrai, pourrait faire du Made in Saint-Tropez avec 3-4 artisans, justement des compagnons du devoir. C'est un projet qu'on a depuis ça facilement 10 ans en tête, mais 3 ans sur le papier. On attend juste de reprendre des couleurs avec cet après Covid qui a bouleversé un petit peu tout, notamment au niveau de l'inflation des coûts de production. Donc on voudrait faire du vrai Made in Saint-Tropez, justement pour cette gamme chez nous qui s'appelle la gamme Tentation Tropézienne, qui représente les 10 couleurs de Saint-Tropez. C'est des cuirs vraiment premium qui représentent chaque couleur représente une qui est emblématique d'une couleur de Saint-Tropez. Et le rêve, ça serait d'avoir des artisans dans nos locaux. On a 140 mètres carrés. On aimerait justement avoir aussi une boutique réelle, la première boutique juste à côté de nos locaux, tout en agrandissant nos stocks, en ayant cet atelier de production et même faire un cybercafé. C'est le projet actuel là en ce moment. Okay. On est en plein dedans, mais c'est un projet à 1 ou 2 ans là.
Ah bah en tout cas, beau projet. Hein. J'espère que ça réussira parce que effectivement, c'est ambitieux mais c'est chouette, hein, bravo. Nous, de notre côté, je vais reparler un petit peu de Benbend. On nous pose souvent la question parce qu'on se présente comme étant un site français, mais effectivement, il y a une partie des bracelets, on s'en cache pas, hein, qui viennent d'Asie. Tout comme les bracelets d'Apple et comme tout un tas de produits de notre quotidien. Hein. Il y a des matériaux. Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer ou qu'on ne sait pas gérer avec des tarifs aussi compétitifs que l'Asie. On pourrait faire du Made in France, hein, ce serait faisable, mais ça ne se vendrait pas parce que ce serait beaucoup plus cher. Ouais. Tout ce qui est cuir pour notre marque Eternel, par contre, c'est fabriqué en France à des degrés divers. Le très haut de gamme en cuir marin, c'est 100% Made in France. On peut me dire, il y a du cuir lyonnais, c'est pas courant. D'ailleurs, Anthony avait visité la tannerie à Saint-Fons. La roquinerie, elle est faite dans le Doubs pour ces bracelets-là. Pareil que certains de vos confrères ont aussi visité en vidéo. Et la fin de l'assemblage, elle se fait à Toulouse. Après, comme disait Mickaël, il y a certaines pièces, on ne sait pas les faire en France. Tout ce qui est adaptateur, on a cherché d'ailleurs. Mais les adaptateurs à des coûts compétitifs et avec la réactivité et l'outillage, etc., on ne sait pas faire autrement qu'en Chine. Donc, le Made in France a cette petite limite que l'adaptateur vient de l'étranger. Tous nos cuirs, ils sont, comme disait, on a les mêmes problématiques pour le coup avec Mickaël, c'est marrant. Tous nos cuirs, ils sont made in France, tout ou partie, c'est-à-dire que les cuirs peuvent être européens d'animaux français, tannés en Europe à partir d'animaux français ou l'inverse, et la fabrication, elle est quasi systématiquement en France.
Ok, ouais. Et au niveau de la revente, est-ce que ça sera envisageable de voir des étuis nos rêves ou des bracelets band-band en vente sur l'Apple Store? Parce qu'ils vendent beaucoup d'accessoires différents, il y a des trucs de Belkin, tout ça. Ça sera envisageable?
Nous, pour nos rêves, c'est une question clé en ce moment. En toute transparence, on était dans les 3 premiers qu'Amazon a appelés quand ils ont ouvert leur marketplace. Okay. Au début, on a joué le jeu. Ça nous a apporté peut-être 10-15% de nos ventes qu'on avait en ligne. À l'époque, on faisait 200-300 ventes en ligne par jour parce que nos prix de vente étaient autour de 40-50 euros et qu'on avait un référencement historique qui était incroyable. On a dû arrêter pour des raisons justement de forte demande. Nos productions n'arrivaient plus à suivre dans les années 2010-2011. On avait trop de demandes, on avait 1200 vendeurs dans le monde entier, on s'en sortait plus, on était une toute petite équipe, on était 3, on avait 300 sous-traitants à l'époque, c'était pas nos productions, c'était une production historique avec qui on a arrêté, qui n'arrivait pas non plus à suivre sur le marché était en pleine croissance, tout le monde renouvelait ou achetait en tout cas leur smartphone, et du coup on a arrêté pendant 10 ans. Je pense que c'est une grosse erreur qu'on a faite, parce que actuellement sur les 1200 vendeurs, nous on a quasiment plus personne, ils ont tous été mangés par Amazon. Après, le problème d'Amazon, c'est le SAV, c'est la gestion, nous on a eu du mal avec eux par rapport aux marges, par rapport au surstockage qu'ils pouvaient faire, notamment en Vendor. Donc la stratégie actuelle, nous on a une stratégie maintenant d'être un petit peu, enfin pas un petit peu, on essaie d'être autonome. Et le projet, comme je disais, c'est plus d'ouvrir des boutiques dans le monde entier. On a en projet d'ouvrir à Saint-Tropez le premier concept store. On a déjà tout sur papier. On devait l'ouvrir juste à la boutique. On a même acheté une boutique à Saint-Tropez de 30 mètres carrés, qui devait être le premier concept store de rêve. On a tous les plans, on devait lancer une gamme de prêt-à-porter qui est pareil, qui est prête sur le papier. Là pour l'instant on a tout stoppé parce qu'on est en train d'englober une des plus belles productions au monde qui nous demande beaucoup beaucoup d'investissement, mais c'est entre guillemets un mal pour un bien, parce que la qualité et l'autonomie qu'on a, elle est juste exceptionnelle. Mais après, le but, c'est d'ouvrir cette première boutique à Saint-Tropez, d'en ouvrir à Dubaï, New York, Singapour. C'est les quatre premiers pays sur lesquels on veut faire. Ouais. En vendant, donc la stratégie, elle est maintenant d'être autonome et de plus trop dépendre de ces marketplaces. Alors, je dis ça, et puis certainement que pour les produits qu'on a en stock, on est en train d'étudier, hein. C'est vraiment d'actualité, on est en train d'étudier pour y revenir, mais juste pour les produits qu'on aurait en stock, parce que naturellement, Amazon ne peut pas offrir notre personnalisation. Et donc c'est bloquant à la fois pour eux et pour nous. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on privilégie la vente exclusive sur notre site et peut-être bientôt sur à travers nos boutiques. Ouais. Et voilà, et pour les produits en stock, peut-être qu'on en mettra quelques-uns pour certaines gammes, les entrées de gamme, quoi.
D'accord, ok. Moi, je me demandais plus par rapport à l'Apple Store, vraiment, parce qu'ils mettent certains produits en avant, et j'imagine que du coup, ça fait un énorme boost au niveau des ventes. Si vous avez déjà essayé de les contacter, ou si eux peuvent vous contacter, comment ça marche ?
Bah, l'Apple Store, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les coûts, hein, les coûts, les marges qu'ils demandent. Ouais. Nous, on n'a pas ces marges-là, quoi. On pourrait pas se permettre. Donc, en tout cas, travailler avec Apple, c'est pas possible pour nous à l'heure actuelle. Sinon, il faudrait qu'on fasse des prix vraiment importants, ouais. Quoi.
Nous, de notre côté, pareil, Apple Store, c'est impossible. En plus, au-delà de l'aspect marge commerciale, Apple a déjà ses propres collections qui sont assez larges. Et je pense que ça pose aussi pas mal de problèmes de stock.
Oui, bien sûr.
Parce que bah, voilà, des bracelets, il y a différentes tailles, différentes couleurs. Sur certaines références, il y a 6 tailles quand même. Enfin, c'est pas rien sur tout ce qui est boucle. Ouais. Et puis en plus, voilà, là où on aurait des produits différenciants sur le cuir, bah, eux, ils arrêtent le cuir. Donc, on les voit mal, finalement, nous solliciter pour notre marque éternelle. Après, pour compléter, tu mentionnais typiquement les marketplaces type Amazon. En fait, nous, Amazon, on y allait au début un petit peu pour tester. Ça a vivoté pendant quelques temps. Et on a pas mal accéléré depuis quelques années. Et en fait, bah, voilà, toute notre gamme cuir aujourd'hui, toute la marque éternelle, elle est présente partout en France et partout en Europe sur Amazon. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Parce qu'on a eu beaucoup de... ça nous a obligés à nous adapter d'un point de vue logistique pour rentrer dans les détails. Nous, sur notre site, on sélectionne un modèle de bracelet, une couleur, une taille, et ensuite la couleur d'adaptateur. Sur Amazon, bah, en fait, on n'a que deux dimensions, c'est-à-dire couleur ou taille, et dès qu'on doit rajouter une troisième dimension avec l'adaptateur, bah, c'est un peu complexe. Donc, on a dû créer beaucoup de nouvelles références, on a dû aussi pas mal adapter notre outil logistique. Donc, on a essuyé aussi beaucoup de plâtre parce que bah, nos catalogues ont évolué. Amazon, ils ont beau être numéro un, leurs outils ne sont pas tout à fait, sont pas toujours parfaits. Et donc, bah, voilà, là-dessus, j'en profite aussi pour remercier les équipes d'Amazon France parce que bah, ils nous ont beaucoup aidé à démêler certaines situations un peu complexes. Et d'ailleurs, bah, okay. Voilà, aujourd'hui, les ventes se sont bien développées. On fait partie des vendeurs Amazon invités au siège France pour tout ce qui est nouveautés et accompagnement. Donc bah, pour l'ensemble, nous, on en est globalement satisfait. Après, comme disait Michael, c'est pas gratuit, hein, Amazon prend sa marge. Mais voilà, quand on arrive à bien connaître le système, on arrive à s'en sortir. Et c'est des marges qui sont assez similaires à ce qu'on peut observer avec des boutiques physiques avec lesquelles on travaille déjà, avec lesquelles ça fonctionne bien. C'est un peu les mêmes problématiques en termes de packaging, d'étiquetage, de standardisation. Donc pour le coup, voilà, bosser avec Amazon, bosser avec du retail, c'était pour nous, ça nous a demandé le même effort.
D'accord. Ouais. Amaury, il y a certains de vos bracelets qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux d'Apple, par exemple ceux sur le thème des fiertés. Comment vous vous débrouillez d'un point de vue légal ?
Alors, nous, historiquement, on a toujours voulu proposer les meilleurs bracelets à des prix honnêtes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a sorti. On a commencé par proposer des collections qui étaient assez larges. Et ce qui se vendait au début, en fait, bah, c'était justement des produits qui ressemblaient à ceux d'Apple, sur lesquels il continue d'y avoir une demande. Mais honnêtement, très vite, nous, on a préféré aller justement vers des produits originaux. Et c'est pour ça qu'on a créé Eternel. Aujourd'hui, c'est la majeure partie de notre chiffre d'affaires. Ou vers des marques comme Nomad, qui font des produits excellents et originaux. Et d'ailleurs, ils ont tellement de succès qu'on aimerait les avoir en un peu plus grande quantité.
Ok, et d'un point de vue légal, du coup, ouais, comment vous faites ? Vous n'avez pas eu de problème de...
Non, on n'a pas eu de problème. Au début, on se demandait, voilà, on ne savait pas trop, parce que pareil, on découvrait aussi cette industrie. Ce qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est que bah, la propriété intellectuelle sur les bracelets, c'est assez compliqué, parce que bah, déjà, c'est une industrie ancienne. Il y a certains concepts dont la paternité, c'est assez difficile à prouver. Il y a des inspirations croisées au fil du temps. Par exemple, si je reprends Apple, Apple n'a pas inventé ses bracelets à partir de rien. Hein. Si on prend des bracelets assez connus comme la boucle sport, ça vient des Omega Speedmaster qui étaient portés par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. La maille milanaise, ça existe depuis le 19e, les aimants aussi, ça existe depuis. Voilà, donc jusqu'ici, on a pu proposer une gamme large. Ces bracelets-là en font partie. Non, on n'a pas été inquiétés.
D'accord, ok. C'est quoi les futurs plans pour nos rêves? Il y a de nouveaux domaines que vous aimeriez explorer? Des accessoires pour le Vision Pro, par exemple?
Alors oui, alors Vision Pro, on y pense. Pour l'instant, ça reste encore une niche, bon, c'est pas pour tout de suite. Là, actuellement, on surfe plus sur toujours pareil notre diversification. On surfe sur le succès des étuis à montres qu'on a lancé il y a un mois, qui est un énorme marché. Et là, justement, on va lancer d'ici 10 jours les boîtes à montres, les plateaux à bijoux, mais aussi des jeux comme les jeux de plage. On a lancé le Bagamon, on a lancé les pistes 2D, des accessoires autour du golf. C'est-à-dire qu'on on part vraiment vers. On suit en fait la demande de nos clients. En achat simultané, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de clients qui nous demandent je veux assortir mon étui à je sais pas, ça peut être à ma montre naturellement, hein, mais c'est surtout à des objets qu'on n'avait pas pensé au tout début. Donc on essaie de le faire au fur et à mesure de la demande. En ce moment, c'est vraiment le marché, c'est vraiment les étuis à montre, c'est assez incroyable. Il y a une vraie plus-value, il y a quelques concurrents, mais pas à notre niveau de qualité et pas avec le savoir-faire de personnalisation comme on sait le faire. Et voilà, et puis on bosse aussi des étuis, des pochettes, smartphones, bandoulières, à la fois pour hommes et pour femmes. On continue notre diversification. Voilà. Alors, c'est à la fois en B2C, je vous dis, avec ce genre de produits, mais aussi en B2B, où là, c'est toutes les semaines, on a des hôtels qui nous demandent toujours plus d'accessoires différents et qu'on ajoute automatiquement à notre catalogue sur le site, quoi.
Ok, ouais. Et du côté de Bandband, l'ouverture à des bracelets pour Galaxy Watch ou Pixel Watch, par exemple, ça pourrait être intéressant. Il y a un vrai marché, d'ailleurs, à ce niveau-là.
Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà testé. On a exploré pas mal de pistes, parce que au moment où l'Apple Watch est sorti, il y a eu aussi toute une concurrence qui s'est engouffrée sur ce moment-là. On a testé donc d'autres modèles que ceux d'Apple, mais jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Nous, notre analyse, c'est que, enfin, on pense qu'il n'y a pas la même culture de l'accessoire sur des montres tierces. Le tarif n'est pas le même non plus quand on prend des montres Wear OS ou des montres très sportives qui sont du coup moins polyvalentes. On a peut-être moins envie de mettre un bracelet cuir sur sa montre de trail. Parce que c'est une montre de trail qu'on porte a priori plutôt pour le trail. Donc ce look sport est peut-être recherché. Après, c'est dommage parce que on sait le faire. Les outillages dont nos fabricants disposent. D'ailleurs, on le fait régulièrement. Hein. On a quand j'ai des proches qui sont, on a tous des amis qui sont pas toujours équipés Apple. voilà, donc typiquement, on fait parfois des trucs un peu sur mesure pour des marques comme WeThings ou comme même parfois des Galaxy. Mais voilà, on l'a fait. On n'a pas persévéré parce que ça nous coûtait cher en stock, beaucoup de références, de taille pour finalement assez peu de ventes. Notre stratégie là-dessus, c'est plutôt, vu qu'on maîtrise très bien ce produit-là et qu'on est sur un segment de marché où, comme je disais, on a une concurrence une pression concurrentielle assez légère. Nous, on cherche plutôt à aller vers l'international, Europe de l'Ouest, États-Unis. D'ailleurs, on est en train de découvrir ce marché-là. Et je citais Amazon tout à l'heure, c'est une très bonne plateforme justement pour pouvoir tester des produits, des gammes de produits, parce que la correspondance entre un marché et les produits, parce qu'on peut leur expédier des produits, on peut faire du média directement chez eux, et ensuite eux gèrent l'expédition, donc ça permet d'éviter de monter toute une plateforme logistique, ce qui c'est coûteux pour des phases de découverte de marché. Après, on a aussi de très bons savoir-faire en logistique, donc pour le coup, on réfléchit aussi à potentiellement s'élargir un petit peu de notre cœur historique de métier du bracelet. Typiquement, comme ce que pouvait faire Amazon avec AWS, où ils avaient des infrastructures techniques et un savoir-faire qu'ils ont mis à disposition d'autres, potentiellement, on aurait cette diversification, mais qui sort complètement de l'univers Apple, en l'occurrence.
Aussi, il y a un souci, c'est que je crois que sur les Galaxy Watch, parce que nous on le fait aussi, hein, c'est un micro-marché, enfin on vend très très peu de bracelets, c'est que les bracelets, c'est des bracelets presque universels, c'est des bracelets qu'on retrouve pour d'autres montres dans tout le monde, parce que c'est juste un insert, enfin c'est pas un insert, c'est le, je sais plus le nom exactement, de 22 mm, quoi, donc il y a 22, 24, il y en a plusieurs, donc je pense que le marché, on peut acheter un bracelet Galaxy Watch un peu n'importe où, quoi, donc le marché est déjà. Naturellement existant, non? Enfin, je sais pas, nous, ça a été aussi pareil, on a eu très peu de résultats sur. On en propose, mais les ventes, elles sont infimes, quoi.
Ouais, on a. Effectivement, il y a ce côté-là aussi, où, quand on regarde le prix moyen de la montre de base.
Ouais.
Effectivement, quand on a une montre à 300 euros, on va chercher un bracelet qui est dans la gamme de prix proportionnelle. Quand on a une montre. Enfin, Apple Watch, grosso modo, les modèles neufs commencent, on va dire, hors remise, à 400 euros et ça monte jusqu'à 1000 euros pour une ultra. Alors, en général, quand on a une montre qui a un peu plus de valeur, on cherche aussi un bracelet qui correspond en termes de valeur. Donc,
exactement, bien sûr.
Si je reprends l'exemple d'une montre Android qui coûte moins de 300 euros, bah mettre 100 euros dans un bracelet, c'est un petit peu, c'est pas.
C'est exactement ce qu'on fait. Voilà, nous, notre stratégie, c'est simple, c'est habiller tous les appareils de plus de 500 euros. En dessous de 500 euros, on n'a aucun intérêt à faire une housse haut de gamme. Il n'y a aucun marché pour ça. Je te rejoins totalement. Ouais.
Ok, eh ben, merci à vous deux de nous avoir dévoilé les coulisses de la création d'accessoires pour produits Apple. On rappelle que BandBand et Noref disposent tous deux de boutiques en ligne sur lesquelles sont proposées toutes leurs créations. Amaury, merci d'être passé.
Avec plaisir, merci à vous.
Mickaël, à bientôt.
Bah, merci beaucoup Félix, merci à MacG.
Et nous on se dit à la prochaine pour un futur épisode. Ciao ciao, bye bye.